Un des dimanches passés, nous avons commencé un thème intitulé « La valeur des choses ». Et nous avions donc parlé de la vie comme étant la chose que nous ayons de plus grande valeur, c'est la vie. La vie, c'est plus que l'argent. La vie, c'est plus que les vêtements. La vie, c'est plus que le succès. La vie, c'est plus que tout cela. Et quand on a dit la vie, il s'agit de la vie entière. Ça veut dire que avant et après la mort, parce qu'on peut sembler être vivant physiquement, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a une éternité devant nous. Et donc, la vie prise dans son ensemble, c'est la chose la plus importante dans l'homme. Et l'homme devrait gérer ce qui est important en lui. Comprendre la priorité des choses. La priorité, c'est la vie. Et dans la vie, nous avons dit aussi que ce n'était pas seulement le fait de respirer, c'était le fait d'être heureux, en paix, en sécurité, que ce soit sur terre ou après la mort. Parce que à quoi ça sert de respirer, mais d'être esclave du cannabis, esclave de l'alcool? Est-ce qu'on a vraiment la vie? Lorsque une tige de... un morceau de papier qu'on enveloppe et dedans il y a des feuilles séchées, te tient en esclave. Est-ce que c'est ça vraiment la vie? Ce n'est pas la vie. La véritable vie, c'est celle que le Seigneur donnait par la paix, la joie qu'il peut procurer, que ce soit aux pauvres, que ce soit aux riches. Le Seigneur est la véritable vie. Et si tu respires, tu dois comprendre que ta vie ne s'arrête pas à la respiration. Il y a une éternité qui est devant nous. Et sur terre encore, il y a des conditions qui peuvent faire que cette vie-là que tu as devienne amère. Mais quand tu as le Seigneur Jésus travaille ta vie de sorte que, quelles que soient les circonstances extérieures, tu sois heureux et dans la joie. La vie, c'était la chose la plus importante. Alors, pour que cette vie-là soit agréable, on a donné la solution. C'était la confier à Dieu. C'est lui qui a créé et qui sait te rendre heureux sur terre et qui sait te rendre heureux après la mort. Parce que lorsqu'on n'a pas Dieu, non seulement on va avoir des problèmes sur terre, mais après la mort, on va aller en plus en enfer. Alors, lorsqu'on a le Seigneur, il a le mode d'emploi de notre création. Il peut nous rendre heureux et sur terre et après. C'est ça le choix qu'il fallait faire lorsqu'on a expliqué ces choses. Et aujourd'hui, nous continuons sur la valeur des choses, mais nous allons parler beaucoup plus à tous ceux qui sont chrétiens. Et le but, c'est que chacun vive une vie épanouie. Car le Seigneur a dit dans Jean 10, « Je suis venu donner la vie dans Jean 10, 10, et la vie en abondance. Donc la vie dans la joie, dans la paix, la vie dans la prospérité. Et quand je dis prospérité, il ne s'agit pas forcément de l'argent, il s'agit de tout ce qui rend l'homme heureux. La vie dans la réussite, dans ce qu'on fait. Bien sûr, une réussite selon le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Mais cependant, nous voyons que beaucoup de chrétiens marquent le pas. Ils marchent comme des escargots. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la valeur des choses. Il y a un principe capital dans la Bible, dans Luc 16, 10. C'est écrit dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. C'est un principe capital. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Or, Si nous ne savons pas reconnaître la valeur des choses, nous ne serons pas fidèles dans ces choses-là. Nous allons les négliger. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire quoi? Le propriétaire, l'investisseur qui te confie la petite chose, considère que tu as autant de qualités pour gérer cette petite chose que gérer les grandes qu'il te confiera plus tard. Alors, s'il voit que tu n'as pas utilisé ces qualités-là pour gérer la petite chose, il considère que tu seras incapable de gérer la grande chose. Toi, tu te dis, mais c'est une petite chose, je vais gérer ça d'une manière légère. Mais lui considère que si tu as été léger avec la petite, donc tu seras légère avec la grande. Tout simplement pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a pas de petite ou de grande chose. Pour lui, tout ce que lui touche, tout ce que lui confie à quelqu'un, c'est une grande chose. C'est ce qu'on doit. C'est là où notre conception doit changer. Pour Dieu, il n'y a pas de petites choses. Quand il dit celui qui est fidèle dans les petites choses, il le dit par rapport à la logique humaine. Mais la conclusion nous montre bien que lui, il fait égalité. Il dit si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera des grandes. Donc pour lui, quelqu'un qui gère une petite chose, ben pour lui, gère une grande chose. Parce qu'il peut lui confier une grande chose. Parce qu'il a géré une petite chose. Donc pour le Seigneur, il y a égalité. Il n'y a pas progression, mais égalité. Parce que dans notre idée, autrefois, c'était quoi? Dieu va voir ben, ta fidélité dans la petite chose et puis va te confier de plus grandes. Non. Dieu considère que la petite chose qu'il t'a confiée, elle est précieuse parce que c'est lui qui te l'a confiée. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras même pas quand il y aura une grande chose. Parce que dans le monde de Dieu, nous sommes dans le monde de l'infini. Dans l'infini, il n'y a pas de limite. Donc de même que si tu considères 10, c'est petit, si tu, et tu te dis, mais quand ça sera 100, je vais considérer ça petit, je vais considérer ça plutôt grand, quand on te donnera 100, tu vas comparer à 100 000, tu vas trouver ça encore, c'est petit. Et tu vas être encore négligent. Tu te dis, mais quand ça sera 10 000, là je prendrai les choses au sérieux. Quand on te donnera 10 000, tu vas te dire, mais si c'était 10 millions, j'allais prendre ça beaucoup plus au sérieux. Donc comme nous sommes dans le monde de l'infini, on ne peut pas dire, tiens, c'est 10 qui est grand, c'est 100 qui est le plus grand. Non. Donc pour Dieu, tout est grand. Parce que ça a son empreinte. Du moment qu'il te confie la chose, tout est grand. C'est pourquoi il dit, la personne qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Les petites choses par rapport à nos yeux, mais par rapport à lui, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de petit. C'est tout est grand parce que tout a son empreinte. Et nous commençons par le texte de Matthieu 20. Luc 16, 10, c'était notre thème principal. Notre texte principal. Et nous lisons dans Matthieu 20, du premier verset au 16e verset. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres, qui se tenait encore là et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez, vous aussi dans la vigne, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, Ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Amen. Bien-aimés, la valeur des choses, c'est Dieu qui la fixe. Ce n'est pas nous. Pour connaître la valeur des choses, il faut se renseigner auprès de Dieu. Nous avons une mauvaise vision de la valeur des choses. Et cette mauvaise vision nous conduira à mal gérer ce que Dieu nous confie, à négliger ce que Dieu nous confie et à rester, à tourner en rond, à être bloqué. Oh, le Seigneur nous a promis la vie en abondance. Malheureusement, nous ne savons pas la valeur des choses. Et comme Dieu est fidèle, il est clair. Il le dit clairement, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Donc si tu as négligé la petite chose, Dieu ne peut pas te confier des grandes. Selon toi, parce que tu as négligé ce qui t'est déjà donné. Donc il fallait commencer par gérer ce qui t'avait été donné. Pour Dieu, tu as négligé. Donc, tu n'en veux pas. Quand quelqu'un néglige quelque chose, ça veut dire qu'il n'en veut pas plus. Pour Dieu, c'est comme ça. Parce que tu n'as pas su apprécier la valeur de la chose qui t'a été donnée. Nous prenons exemple de cette histoire. Un homme sort à 8 heures. Il prend des ouvriers. Peut-être certains parmi nous ne connaissent pas cette façon de faire. Mais nous qui avons été dans certains pays, notamment le Maroc, il y a cette façon de faire dans le matin. Il y a des ouvriers qui se positionnent dans une place publique, et il y a des patrons qui viennent, des entrepreneurs, des gens qui travaillent en général dans le bâtiment, qui viennent prendre ces ouvriers-là. Parfois aussi, c'est dans les champs, c'est comme ça. Et ces ouvriers-là vont rester jusqu'à une certaine heure. Après une certaine heure, bon, ils se disent, personne ne viendra plus nous chercher, on s'en va. Mais là, nous voyons donc ce patron qui vient le matin à 8 heures, il prend, à 7 heures du matin, il prend des ouvriers. Et ensuite, il revient vers 9 heures, il en prend encore pour aller travailler dans son champ. Et à chaque fois, il s'accorde sur un salaire. Donc avec ceux, les premiers, il s'est accordé sur un denier. Un denier, c'est un gros salaire déjà, un très grand salaire qui dépasse le salaire d'un jour de loin. Mais dans sa bonté, ce patron s'accorde avec le premier ouvrier sur un denier. Les premiers sur un denier. Et il arrive jusqu'à 17 heures, donc une heure avant la fin de la journée de travail. Il prend encore des ouvriers. Et à la fin, il leur paye tous le même salaire. Alors, ceux qui étaient venus en premier disent, mais non, mathématiquement, arithmétiquement, c'est pas normal. Nous, on a travaillé plus de 8 heures. Eux, ils n'ont travaillé qu'une heure. Ceux-là ont travaillé 2 heures. On nous donne le même salaire. Et qu'est-ce que le patron dit ? Le patron dit, mais mon cher, quand je t'avais pris à 7 heures du matin, notre accord, c'était sur un denier. Qu'est-ce qui te gêne que je donne aussi à l'autre un denier ? Puisque nous deux, on était d'accord sur un denier. J'ai été honnête avec toi. Maintenant, c'est ma richesse. J'en fais ce que je veux. Si j'ai décidé de donner au dernier un denier, où est ton problème? Bien-aimé, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Ésaïe 55 le dit. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Ce monsieur-là a raisonné arithmétiquement. Il s'est dit, nous avons travaillé 9 heures, donc eux, ils auront 1/9 de notre salaire, ou en tout cas moins que nous. Mais Dieu ne raisonne pas comme ça. C'est un exemple très, très, très important de la façon de Dieu de voir les choses. Donc, en ce moment-là, ce patron a montré qu'une heure dans son champ était Passer une heure dans son champ était aussi important que passer 9 heures dans son champ. C'est la logique de Dieu. L'heure qui t'a été donnée, qu'est-ce que tu en as fait? Le problème, ce n'est pas la quantité, c'est ce qui t'a été donné. À cet ouvrier, il a été donné 1 heure. S'il a été correct pendant 1 heure, il sera payé. L'autre, il a été correct pendant 9 heures, il sera payé. Mais les gens vont dire, mais oui, mais c'est injuste. Ce n'est pas injuste, puisqu'il a été, il s'est entendu avec toi sur un denier pour tout le temps que tu allais faire. Et ce n'est pas injuste parce que pendant que l'autre était, vous vous imaginez, celui qui était sur la place à 15 heures, il était triste parce que jusqu'à 15 heures, il n'avait pas de patron, il n'avait pas d'entrepreneur. Alors que toi, dès 7 heures du matin, tu es déjà chez le patron en train de travailler. Tu es heureux, tu te dis, j'aurai un salaire à la fin. Lui qui est jusqu'à 15 heures, pendant 7 heures du temps, il est en train de réfléchir sur son avenir. Qu'est-ce que je donnerai aux enfants comme nourriture demain? Il est triste, il est accablé. Alors que toi, tu es en train de travailler, assuré qu'à la fin, tu auras ton denier. Donc, tu étais déjà béni, mais lui, il était dans le malheur. Pourquoi ne pas le consoler après avec un denier comme toi? C'est ça, bien-aimé. Dieu a sa logique, mais c'est la plus belle logique. C'est la logique de l'amour et c'est la logique de la valeur des choses. Parce que si cet homme-là s'était dit, c'est pas la peine d'aller travailler pour 1 heure, je n'aurai rien du tout. Est-ce qu'il aurait eu un grand salaire comme ça? Non. Cet homme pouvait dire à 16 heures, arrivé à 16 heures, il pouvait se dire, bon, il est 16 heures. À quoi ça sert d'aller travailler pour 2 heures? Je préfère rentrer chez moi, faire des travaux à la maison. Le salaire de 2 heures, c'est rien du tout. Il s'est dit non, 2 heures, c'est quelque chose toujours. Voilà. 2 heures, c'est quelque chose. 1 heure, c'est quelque chose. C'est parce que il a cru à l'importance de la petite heure qu'il a eu le salaire de toute la journée. Dieu nous parle, bien-aimés. Il faut estimer les choses à la valeur que Dieu leur donne, non pas à la valeur que nous nous donnons. Regardons à Dieu et nous allons comprendre la valeur de ce que nous avons. Cet homme a connu la valeur de l'heure parce qu'il a accepté d'aller vers ce bon patron-là. Ce bon patron lui a montré la valeur de l'heure. 1 heure était importante auprès de Dieu. C'est ça l'enseignement que nous tirons déjà de ce passage. Dieu accorde autant d'importance à une petite chose selon les humains qu'à une grande chose selon les humains. Du moment que cette chose-là est mise à son service, ça a la même importance. Que tu sois celui qui balaye à l'église, que tu sois celui qui prêche à l'église, du moment que vous faites travailler pour Dieu, ça a la même importance. Que tu sois celui qui conduit le fourgon de l'église, que tu sois celui qui chante à l'église, vous avez tous la même importance aux yeux de Dieu. Alors si toi qui conduis le fourgon, tu n'as pas compris cela, tu vas négliger ton travail et tu seras déçu plus tard. Parce que Dieu te dira, je t'ai donné une grande chose, tu as négligé. Mais tu diras, mais quelle grande chose? Mais conduire le fourgon, pour toi c'était rien, mais pour Dieu c'est important. Il faut comprendre la logique de Dieu. Dieu veut qu'on soit fidèle dans les petites choses. Parce que pour lui, il n'y a pas de petites choses. Pour lui, tout est grand. Quand il te confie quelque chose, c'est grand. Et négliger la chose, c'est négliger Dieu lui-même. Et ce patron a démontré cela. Nous lisons encore dans Luc 19. 2 textes qui vont nous servir de fil conducteur tout le long de notre prédication. Luc 19. À partir du verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour lui dire « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, la mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? Et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. » Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous explique encore. Un homme confie des mines, des grosses sommes d'argent à des serviteurs et il va en déplacement. À son retour, il demande des comptes à ses serviteurs. Il y a celui qui avait 10 mines qui dit qu'il a fructifié. On lui dit, on te donne maintenant l'autorité sur 10 villes. Il y en a qui avaient 5, autorité sur 5 villes. Il y a un qui avait reçu une mine, sûrement, peut-être, dans la colère d'avoir reçu qu'une seule mine, par jalousie vis-à-vis de ceux qui ont reçu 5 ou 10, sûrement, peut-être aussi dans la paresse, dans une logique de paresse, il n'a pas voulu fructifier cette mine. Et il dit à son maître, « Mais bon, moi je sais que tu es un homme sévère, pour n'avoir pas de problème avec toi, j'ai préféré ne rien faire et te restituer ce qui est à toi. » L'homme lui dit, « Ah, si je suis vraiment sévère, j'aurais dû faire mieux que cela. Donner cela à la banque pour que j'aie moins des intérêts. Là, tu m'as dépouillé parce que s'il fallait garder la mine, est-ce que j'avais besoin de toi? Bien-aimé, réfléchissons. S'il fallait garder cette mine-là, est-ce que le patron, est-ce que ce roi-là, est-ce qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui garder la mine? Il aurait pu garder ça tout seul. Donc s'il a confié à cet homme-là, c'était pour fructifier ça. Et que ça bénéficie à cet homme-là, parce que regardez la récompense de ceux qui ont multiplié, fructifié. Ben, ils ont reçu des villes pour gérer. Le patron dit, mais tu dis que je suis sévère. Mais pourquoi tu ne t'es pas comporté comme si j'étais sévère? Parce que si tu étais conscient que j'étais sévère, tu allais prendre cette mine, donner à un banquier, au moins que j'ai des intérêts. Là, tu m'as provoqué. Et tu es un menteur. C'est faux. En réalité, ce n'est pas parce que je suis sévère. Parce que si j'étais sévère, je n'allais pas vous donner autant pour fructifier. C'est parce que peut-être tu es jaloux. Parce que tu ne veux pas comprendre ma pensée. Tu ne connais pas la valeur des choses. Une mine, c'est beaucoup d'argent. Tu as négligé ça. Peut-être parce que tu as vu que les autres avaient 10 mines. Voilà qu'est-ce qui se passe, bien-aimé, aujourd'hui. Dans l'église du Seigneur, il y a des gens qui négligent leur talent parce qu'ils estiment que les autres en ont beaucoup plus qu'eux. Et ils ne font rien pour Dieu. Et ils disent, bon, moi, je préfère me limiter à venir prier. Je ne veux pas m'engager à être pasteur parce que beaucoup de pasteurs tombent. Je ne veux pas m'engager à servir Dieu plus loin parce qu'il y en a qui servent Dieu, ça ne marche pas comme il faut. Alors, je veux n'avoir aucun problème avec Dieu, je préfère ne rien faire. Être correct, venir prier, un point c'est tout. Comme ça, je n'ai de problème avec personne et surtout pas avec Dieu. Dieu dit, mais dans ce cas-là, il a fallu prendre le talent que je t'ai donné, aller vers une autorité, dire, autorité, je pense avoir tes talents, sers-toi de ces talents-là, puisque toi-même, tu ne sais pas quoi en faire. Il fallait aller chez quelqu'un qui aurait pu l'utiliser, ce talent-là, au lieu de l'enterrer. Beaucoup sont là à murmurer et ils n'utilisent pas ce qui leur a été donné, sous prétexte que les autres en ont beaucoup. Beaucoup sont malheureux parce qu'ils estiment que Dieu s'occupe plus des autres que d'eux-mêmes. Parce que ce qu'ils ont, ils estiment que ça n'a pas beaucoup de valeur. Ce n'est pas bon, bien-aimés. Dieu nous a tous donné des bonnes choses. Chacun selon la mesure qui lui correspond. Il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas sans pourtant. Mais je peux en citer quelques-uns. Il y a la foi de chacun. Il y a les capacités de gestion que Dieu a données à chacun. Il y a l'appel de chacun. Il y a le fait que Dieu ne veut pas nous donner quelque chose qui nous fasse tomber plus tard. C'est quelques paramètres amènent Dieu à distribuer les choses en fonction d'une certaine mesure ou dans une certaine diversité. Mais ce n'est pas parce qu'il aime quelqu'un plus que l'autre. Dieu n'est pas le cousin de quelqu'un au milieu de nous ici. Dieu nous a créés, nous tous. Donc il ne peut pas avoir de favoritisme. Parce qu'avant Dieu, personne n'existe. Et donc Dieu, dans son amour, il a répandu les dons de sorte que nous tous, nous puissions les mettre au service de la communauté, au service des enfants de Dieu. De sorte que nous tous, nous ne puissions pas nous tomber dans l'orgueil. Parce que si nous avions tous la même chose, on n'aurait plus besoin les uns des autres et on serait séparés, chacun isolé. Mais Dieu a fait en sorte que nous ayons tous quelque chose dont l'autre a besoin afin qu'on soit ensemble. Le but, c'est qu'il rassemble ses enfants. Dieu a fait en sorte que certains manquent d'une chose que les autres ont, et vice-versa, pour qu'il y ait complémentarité. Mais ce n'est pas parce qu'il aime certains plus que d'autres. Alors quand on est dans ces situations-là, il ne faut pas commencer à murmurer, et il ne faut pas prendre ton talent, tu enterres, bien-aimé. Voilà, celui qui avait une mine a été sanctionné, parce qu'il a enterré sa mine. Il a négligé le don de Dieu, bien-aimé. Ne négligeons pas le don de Dieu. Ce que Dieu nous a donné a une grande importance. À commencer par ce qui est physique, la vie, le corps, la respiration, ça a une grande importance. On peut s'en servir. Et servons-nous de cela pour sa gloire. Et nous allons voir qu'à chaque fois que nous nous en servons, nous allons fructifier cela. Les gens qui ont essayé de s'en servir, celui qui avait 5 mines en a eu 5 de plus. Celui qui en avait 10 en a eu 10 de plus. À chaque fois que tu vas essayer de te servir du don de Dieu, forcément, il y aura une production. Que personne ne vous trompe. Il y aura une production. Peut-être parfois que tu ne verras pas, mais la règle est là, il y aura une production. Parce que Dieu veut qu'on porte du fruit. Dieu dit que l'homme récolte ce qu'il a semé. Donc à chaque fois que nous travaillerons pour Dieu, à chaque fois que nous mettrons en son service la chose qu'il nous a donnée, il y aura forcément une production. Mais lorsque, par peur de perdre cette chose, parce que là, je vais donner un autre exemple, c'est que pour certains, le talent qu'on leur a donné est devenu le leur. Le don, l'argent, les moyens qu'on leur a donnés, la beauté qu'on leur a donnée est devenu leur bien. Ce qui fait qu'ils ne veulent pas perdre leur bien. Ils n'ont même pas souci de Dieu. Leur souci, c'est si j'investis ce que j'ai, mon temps, est-ce que ça va rapporter? Donc, ils ont peur d'investir quelque chose qui ne va pas rapporter pour eux. C'est faux. Le Seigneur nous montre à travers la parabole, cette parabole, que tout ce qu'on investit pour Dieu, ça produit. Il nous a montré à travers la parabole des ouvriers que même une heure avec Dieu peut produire autant que 10 heures. L'essentiel, c'est que tu as mis ça à la disposition de Dieu. Dès que tu vas mettre ça à la disposition de Dieu, la valeur change. Ça prend une autre valeur, bien-aimé. Et mettre quelque chose à la disposition de Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu ne gères plus ça. C'est Dieu qui s'en occupe. Toi, tu as mis ton temps à la disposition de Dieu. Dieu s'en occupe. Si pendant ce temps-là, il y a des contrariétés, tu ne dois pas récupérer ton temps, l'écourter. Tu l'as déjà donné au Seigneur. Tu as donné quelque chose à Dieu. Mais tu oublies la chose. Parce que maintenant, c'est Dieu qui gère. Comprenons la valeur des choses. Les apôtres n'avaient pas compris que la mort de Jésus-Christ était très importante. Ils n'avaient pas compris ça. Or, aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est grâce à la mort de Jésus-Christ. Quand Samuel est venu pour chercher qu'il va oindre comme roi, il a regardé, il y avait le fils aîné de Jessé qui était un costaud, Eliab. A dit, c'est lui. Dieu lui a dit dans l'oreille, non mais, vous vous regardez à ce qui frappe l'œil, moi je regarde au cœur. Ce n'est pas lui. Il est descendu jusqu'à tous les 7 enfants, personne. Mais Dieu lui dit, il y a un autre. Alors il pose la question au papa, mais est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Il dit, mais oui, mais j'ai un autre enfant, mais c'est encore un petit. Lui, il est en train de s'occuper des bergers, des brebis dans les champs. Samuel lui dit qu'on l'amène ici. Et David, un jeune enfant, arrive. Et quand il arrive, bien aimé, Dieu lui-même, il respecte. Hein? Dieu lui-même, il respecte ce qui a de la grande valeur. Il dit à Samuel, c'est lui. L'homme que je me suis choisi, c'est dans mon cœur. Samuel étonné. Et Samuel, comme il était un bon serviteur, quand Dieu lui dit que c'est elle qui a de la valeur, Samuel a changé de comportement. Il s'est humilié devant David, comme si David était devenu déjà son roi. Il s'est humilié, lui qui était vieux en âge. Mais il s'est humilié devant David, parce que Dieu a dit, c'est lui que j'ai choisi d'être le roi. Il n'a pas compliqué. C'est lui le roi, lui le grand Samuel, respecté dans tout le pays. Il s'est humilié devant le roi que Dieu lui a indiqué. Bien-aimé, c'est pourquoi moi j'ai beaucoup de respect à quiconque est un vrai chrétien. Quand quelqu'un est un vrai chrétien, moi j'ai beaucoup de respect. Parce que je sais que le Fils de Dieu est dans cette personne-là. Et je m'humilie devant cette personne. Si je dois lui cirer les chaussures, je vais le faire. Parce que c'est le Fils de Dieu en personne qui est dans cette personne-là. Il faut comprendre la valeur des choses. Nous nous souvenons de la parabole du Seigneur sur une brebis qui s'est égarée. On a laissé les 99 en sécurité pour aller chercher la seule brebis égarée. Comprenons la valeur des choses et nous changerons de vie et la gloire de Dieu se manifestera. Samuel s'est humilié devant David. Il a eu un roi, bien-aimé, un enfant, parce que Dieu a décidé que c'était enfant-là qui était le roi. Bien-aimé, ne résiste pas à la valeur que Dieu accorde à une chose. Ne résiste pas, ne cherche pas à faire ta loi, c'est Dieu qui l'emportera toujours. Saül a voulu résister au fait que c'était David le véritable roi. Il a fini par être écarté d'une manière brutale. Combien de gens n'ont-ils pas résisté à la volonté de Dieu sur David? Dieu a fini par leur prouver que c'était David qui s'était choisi. Le propre fils de David s'est dit, mon père a fait trop de bêtises, je vais le chasser du pouvoir. D'accord, il l'a chassé, mais on a vu comment lui-même il a fini. Tué, en plein combat, accroché, ses cheveux se sont accrochés aux arbres, aux branches d'arbres. Bien-aimé, David était l'élu de Dieu, que tu le veuilles ou pas, il fallait, qu'on le veuille ou pas, il fallait l'accepter. Et c'est comme ça que tous ceux qui l'ont accepté étaient bénis.
Il faut reconnaître la valeur des choses et l'accepter. La mort de Jésus, c'est ça notre grande valeur. Il faut l'accepter. Si tu cherches Jésus dans les miracles, tu te trompes. Jésus se trouve dans l'amour, dans le sacrifice. Et ce sacrifice, cet amour produit les miracles. Mais si tu veux commencer par le miracle, tu ne trouveras pas le Seigneur. Commence par l'amour et le fait de se donner en offrande. Ce que tu as, donne-le en offrande, tu verras comment Dieu va changer les choses. La valeur des choses est importante. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que cette histoire se répète. Gédéon, Dieu lui dit, j'étais choisi pour délivrer Israël. Gédéon dit, mais moi je suis petit. En plus, je suis dans une petite famille. Et ma tribu est petite aussi. Donc tout était petit pour Gédéon. Mais Dieu lui dit, c'est moi qui t'ai choisi et je serai avec toi. C'est important, bien-aimé, de comprendre cet élément-là. C'est Dieu qui décide. Il dit dans Jean 15, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus le dit. Afin que vous portiez du fruit. Bien-aimé, ne réfléchis pas par rapport à toi. Réfléchis par rapport à celui qui fait le choix. C'est lui qui est important. Ne réfléchis pas par rapport au regard des autres. Réfléchis par rapport à celui qui fait le choix. Il y en a qui tiennent tellement compte du regard des autres qu'ils ne font rien. Ils se disent, je ne suis rien, puisque les autres ont estimé que je n'étais rien, je suis rien. Alors, puisque tu le dis, donc tu contredis la parole. Si Dieu t'a choisi, tu as beaucoup de valeur. Même si les autres ne le voient pas. L'important, ce n'est pas que tu sois glorifié. L'important, c'est que Dieu soit glorifié en toi. Peut-être que tu cherches ta propre gloire. C'est pourquoi tu ne l'as pas reçu et tu penses que ce que tu es n'est rien. Ou ce que tu as n'est rien. C'est faux. Ce que tu as est important du moment que Dieu a mis sa main dessus. Est-ce que Dieu a mis sa main sur toi? Alors tu as une grande importance. C'est très important de comprendre ces choses. Moïse avait du mal à parler, mais c'est lui que Dieu a choisi pour libérer les enfants d'Israël. Pourtant, Moïse était qui? Moïse habitait chez Pharaon. Si on avait demandé aux enfants d'Israël, où peut-on trouver votre libérateur? Ils auraient cherché partout sauf chez Pharaon. Ils auraient cherché partout. Ils auraient cherché dans quelle famille il y a l'homme le plus vaillant, l'homme le plus sérieux. Ils auraient surtout pas pensé que Moïse qui habite avec Pharaon va aller se battre contre Pharaon lui-même. Ils ne pouvaient même pas imaginer ça. Mais Dieu a pris un juif qui était à côté même de Pharaon pour venir libérer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui accorde de la valeur. Et même au début, les juifs n'ont pas voulu de Moïse comme libérateur. Mais Moïse a prouvé qu'il venait de l'Éternel. Ils ont été obligés de céder, bien-aimés. Comprenons la valeur des choses. Moi, je vois beaucoup de gens aujourd'hui se plaindre pour tout et pour rien. Il y en a qui ont un appartement, ils se plaignent parce qu'ils veulent une plus grande maison. Bien-aimé, commence par bien utiliser ce que Dieu t'a donné. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné l'endroit où tu es? Commence par l'utiliser comme il faut. Est-ce que c'est devenu une maison de prière? Non. Seigneur, quand tu me donneras une grande maison, je vais la consacrer à toi, les gens viendront prier. Consacre déjà ton canapé d'aujourd'hui. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes. Consacre d'abord ce que tu as. Bien-aimé, le regard vis-à-vis de ce que les autres ont va nous empêcher d'utiliser ce que Dieu nous donne. On veut bien chanter, mais nous voulons des micros qui viennent des États-Unis. Commence par utiliser d'abord les micros qui viennent de l'Espagne. Et Dieu verra que tu es sérieux et il te donnera les micros qui viennent des États-Unis. Moi, je veux être dans la chorale. Commence d'abord par chanter pendant que tu te laves dans ta salle de bain. Dieu verra que tu prends au sérieux le chant. Commence par chanter déjà au salon. Commence par chanter dans les métros. Dieu verra que tu aimes tellement le chant qu'il lui est consacré et il te donnera d'autres responsabilités. Je veux. Commence d'abord par être ponctuel. Il y en a qui ne sont même pas ponctuels. Mais ils veulent seulement. La valeur des choses, bien-aimés. La valeur des choses. Quand Dieu met la main, les choses se transforment. Vous savez, il y a un aveugle, un garçon qui était né aveugle. Et Jésus-Christ le regarde. Il prie pour cet enfant, il commence à voir. Bien-aimé, ses parents avaient toujours eu honte de cet enfant. Mais ce jour-là, c'était devenu le jour de gloire. L'enfant voyait. Tout le monde disait, mais qui est cet enfant? Ce jour-là, les parents étaient connus. Bien-aimé, si tu trouves que ce que tu as n'a pas de valeur, pour toi, prends ce que tu as, dis au Seigneur, utilise maintenant ça. Prends ce que tu as, dis au Seigneur, maintenant je veux que tu t'en serves. Et tu verras comment les choses vont changer. Il y a des gens qui ont des choses. Ils aiment ça. Ah, merci Seigneur de m'avoir donné cette chose. Mais le jour où l'autre achète. Vous connaissez la publicité à la télévision de Vegas. Je n'aime pas ces choses-là, mais bon, on prend un exemple. La dame qui avait une limousine de 20 mètres, le voisin a acheté une limousine de 25 mètres, lui, il voulait mener une limousine de 30 mètres. Donc, quand tu avais ta Twingo, tu étais contente. Ah, le Seigneur m'a donné une voiture, je peux bien me garer. Tu vas trouver tous les avantages. Hein? Ah, c'est pratique, hein? Pas de problème. Le jour où la voisine achète maintenant une Mégane, oh, tiens, je commence à trouver que la Twingo fait un bruit de fond. Et là, la bénédiction de Dieu se transforme en problème. Pourquoi? Parce que l'autre a quelque chose d'apparemment meilleur. J'ai dit bien d'apparemment parce qu'en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas quel piège il y a dans cette voiture-là. Apparemment, c'est meilleur. Mais on ne connaît pas la réalité. Seul Dieu connaît la réalité. Seigneur, je veux voir un enfant. Grossesse. Ah, oh, ça dure. Oui, moi, je suis fatigué. Mais qu'est-ce que tu voulais finalement, bien-aimé? Et c'est une fille. Mon mari avait voulu que ce soit un garçon, mais la valeur des choses, on ne connaît pas. Dieu a sauvé Israël par Esther, une femme. Bien-aimé, Dieu nous a donné son fils par une femme. Moi, quand j'entends les gens se plaindre par rapport aux filles, je dis, heureusement, il n'y a pas un verset où Jésus a donné un coup à quelqu'un. Sinon, on aurait imité ces versets-là. Dieu nous a donné son fils par une femme bien-aimée. Ce n'est pas par un homme. Le Seigneur a dit dans Genèse 3, il a dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la descendance de la femme. Bien-aimée. Entre Jésus, le fils de Marie, bien-aimé, et Satan, il y aura une inimitié. Et Jésus écrasera Satan. Bien-aimé, vous savez ce que c'est, avoir un cœur de femme. C'est un miracle naturel. Il faut voir les femmes, comment ils s'occupent des enfants. C'est un amour divin, bien-aimé. On ne doit pas blaguer avec ces choses-là. Comment les femmes sont... Vous avez vu, nous, on est prêts à se battre, à faire des choses, lutter. Mais les femmes préfèrent la paix, bien-aimé. Quand ça chauffe, ils disent, mais non, calmons-nous. Alors on te donne une fille, sois dans la joie. C'est l'élu du Seigneur. C'est l'élu de Dieu, bien-aimé. On ne blague pas avec ces choses-là. Et Dieu, lui, ne blague pas avec ces choses-là. quand il donne quelque chose qu'on néglige, il dit, mais qu'est-ce que je peux lui donner encore? Parce que ce que j'ai donné, il n'en a pas voulu. Bien-aimé. Ah, mes cheveux, ça se casse. Mais bien-aimé, nous les hommes, ça part, on devient chauve. Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on se plaint? Ça se casse. Prie le Seigneur qu'il s'en serve. Seigneur, je veux que ces cheveux-là servent pour ta gloire. Tu verras les choses, comment ça va changer. Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu dois en faire? Ne cherche pas ta propre gloire. Comprenons la valeur des choses. Bien-aimé, même le monde nous enseigne. Aux États-Unis, il y a des gens, puisqu'il a un gros nez, c'est ça qui fait son succès. Dans les films, dans certains films, c'est lui qu'on va chercher. Parce qu'il a un gros visage, il a un gros nez. Et lui aussi, il utilise ça. Il a compris que mon succès vient de mon visage. Si j'avais un beau visage, on ne me calculerait pas. C'est parce que je suis vilain que j'intéresse les gens. Et il est content, il gagne de l'argent avec. Toi, tu vas dire qu'il est vilain, mais lui, il se promène avec des Rolls. Tu vas dire qu'il est vilain, mais il a une belle femme. Mais finalement, qui a gagné? C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Parce qu'il a su utiliser ce qu'on lui a donné. Même le monde nous enseigne. Il y a des gens dans certains films, c'est parce qu'il a la petite taille qu'on va le chercher. Parce que ça correspond au film, bien-aimé. Nous voulons toujours des choses et des choses. Mais Absalom, pourquoi il est mort? Parce qu'il avait des beaux cheveux. Des cheveux en grande quantité. On disait que quand il coupait ses cheveux, ça pesait tellement lourd. Tout le monde aimait les cheveux d'Absalom. Mais ce jour-là, il était sur le cheval, ses cheveux se sont accrochés au branchage. C'est ça qui l'a tué. Après, on est venu l'achever. Bien-aimé, n'envions pas les choses d'autrui. Utilisons bien ce que Dieu nous a donné. Dieu sait ce qu'il fait. C'est important, bien-aimé. Bénis le Seigneur pour ce que tu as. Sers-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Arrêtons de nous plaindre et de bloquer l'œuvre de Dieu en nous. Beaucoup se plaignent. Ah, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Si j'avais beaucoup d'argent, moi j'aurais vraiment soutenu l'œuvre de Dieu. Mais Dieu ne te demande pas de soutenir l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'argent. Il te demande de soutenir avec ce que tu as. Une année ne fait pas les soldes. Dis l'argent des soldes, je donne ça pour Dieu. Voilà. Dieu ne te demande pas de devenir millionnaire et de donner des millions. Il te demande d'utiliser ce que tu as. Nous connaissons l'histoire de la veuve. Elle n'avait que deux pièces. Elle n'a donné que ses deux pièces. Voilà. Ce que Dieu attend de toi. Il n'attend pas que tu aies des millions. Il attend que ce que tu as, tu te dises, Dieu a la plus grande part. Dans tout ce que j'ai, je donne à Dieu la plus grande part. C'est ce que Dieu attend de toi. Il n'attend pas que tu aies beaucoup et que tu donnes beaucoup, mais qu'il soit le superflu. Tu as 1 milliard, tu donnes 100 000, mais c'est quoi? C'est rien. Il attend que le peu que tu as, tu donnes la plus grande part à lui. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes. Souvent, j'observe les chrétiens, je dis, beaucoup sont pauvres, volontairement, sans s'en rendre compte, parce qu'ils pensent qu'en gardant, c'est là qu'ils deviennent riches. Or, avec Dieu, quand tu donnes, c'est là que tu t'enrichis, quoi. C'est là que tu t'enrichis. Vous savez, il y a des gens, on était en train de discuter avec des bien-aimés à propos de certains épiciers qui ouvrent jusqu'à 2 heures du matin et qui vendent ce qui est vendu à Lidl à 1 euro et ils le vendent à 2,50 euros. Et quand tu entends ça, tu te dis quoi? Oh, ils s'enrichissent ces gens-là. Mais bien-aimés, ils s'enrichissent, ils ont quoi? Peut-être au maximum 2 maisons. Mais regardez celui qui a Lidl. Vérifiez sa vie. Il doit avoir, lui, des châteaux. Il doit avoir des millions dans son compte. Vous savez, la logique humaine de fausse épargne, de faux profits, donne l'impression que tu t'enrichis parce que tu te compares à des pauvres. Mais lorsque tu regardes de gens qui acceptent d'investir. Les gens qui ont fabriqué l'idée, qui ont conçu Lidl, Carrefour, tout ça, ils ont décidé d'investir en masse en vendant beaucoup de choses moins chères. Ça donne l'impression qu'ils perdent par rapport à toi qui vends jusqu'à 2h du matin, trois fois plus cher qu'eux. Mais lorsqu'on regarde bien, tu restes dans une richesse limitée, bloquée. Tu ne peux pas aller plus loin. Ces gens-là, ils ne sont pas riches du tout. Mais ceux qui acceptent d'investir en masse deviennent encore très riches. Mais ceux qui veulent faire des circuits compliqués, vendre à 2,50€ à 2h du matin, ce qui coûte 50 centimes, ils vont être contents parce qu'ils ont vendu 2,50€. Mais combien de gens vont venir à 2h du matin acheter aussi? 20 personnes peut-être, c'est tout. Est-ce que c'est ça la vraie richesse? Non. La vraie richesse, c'est quand on prend des risques, on investit beaucoup et on gagne aussi beaucoup. Parce que surtout avec Dieu, on ne perd jamais. Bien-aimés, sachons gérer. La bonne gestion, c'est offrir à Dieu. Et vous allez voir, bien-aimés, les miracles que Dieu va faire. Il le dit clairement. Ce que tu donnes, tu recevras au centuple. Mais ce n'est pas un calcul mercantile. Il faut le faire avec joie, par amour pour Dieu. Dans la conscience que ce qu'on donne, c'est ça qui se multiplie. Alors que ce qu'on garde finit par baisser et diminuer, se terminer. Connaissons la valeur des choses. Si nous connaissons la valeur des choses, nous serons des hommes très très heureux. Très très heureux. Ce qui nous manque, c'est cette connaissance-là. On ne sait pas que ce que Dieu donne, c'est ça qui est important. Ce que Dieu bénit, c'est ça qui est important. Et si nous prenons conscience de cela, qu'est-ce que nous allons commencer à faire? Tout ce que Dieu nous a donné, remercier Dieu pour cela. Merci pour les enfants. Merci pour la maison. Merci pour la voiture. Merci pour les chaussures. Merci pour l'église. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour le pays. Parce qu'on commence à comprendre la valeur des choses. Merci pour le président. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui établit les rois. Parce qu'on commence à entrer dans la logique de Dieu. Même si, en apparence, les choses pour lesquelles nous disons merci ne semblent pas nous satisfaire, nous pouvons changer cela en disant merci à Dieu parce que Dieu a permis qu'on les ait. Parce que quand on dit merci à Dieu pour ça, on fait de Dieu le pourvoyeur. Et quand Dieu est le pourvoyeur, il ne donne que des bonnes choses à ses enfants. Il va faire que pour toi, le roi devienne gentil. Parce que toi, tu l'as remercié pour lui. Il va faire que pour toi, la deux chevaux devienne quelque chose d'agréable. Parce que tu lui as dit merci pour cela. Il va faire que pour toi, l'enfant qui semble turbulent devienne un enfant agréable. Parce que tu lui as dit merci pour cet enfant-là. Il y a des gens qui parlent mal aux enfants. Toi, je ne sais pas par où tu es venu. Oh, tu ne sais plus par où il est venu. Bien-aimé. L'enfant qui fait des problèmes, Dieu, lorsque tu lui diras merci pour cet enfant-là, tu verras ce qu'il fera de lui. Nous devons dire à Dieu merci pour les circonstances dans lesquelles il nous a placés, avec les enfants qu'il nous a donnés, les femmes, les maris. Il faut dire à Dieu merci. Il y a des spécialistes de plaintes. Les DJ, ils tournent le disque. Wah, wah, wah. Toujours les plaintes. Bien-aimés, sachons remercier Dieu. Dire, voilà, j'aurais pu, Seigneur, me coltiner un voyou, mais tu m'as donné un mari quand même. Il ne sait pas faire telle chose, mais il sait faire autre chose. Ce n'est pas un voyou. Bien-aimés, on ne sait pas mesurer la valeur des choses. Changeons de logique. Si nous savons mesurer la valeur des choses, Dieu va mettre sa main. Si nous savons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné, il va donner plus encore. Parce que Dieu ne veut pas notre jugement. Il ne veut pas que plus tard on soit jugé pour ingratitude. Alors, quand il voit qu'on est ingrat, il ne donne pas plus. Parce qu'il sait qu'on restera encore ingrat et notre jugement sera grave. Il veut nous interpeller. Arrêtez avec l'ingratitude. Arrêtez avec l'ingratitude. Il y en a qui ne font que se plaindre de la France. Oh, la France. On était même à l'aéroport. Il y a un homme qui s'avance. Moi, la France, j'en ai fini avec. On a marché. Moi, je dis, mais il est devenu fou. Comment? Tout le monde se plaint de la France. La France, la France. Mais il faut quitter alors. Aller en Belgique. Aller en Roumanie. Qu'est-ce que vous attendez, bien-aimés? Laissez-nous la France. Nous allons manger les camemberts tranquillement ici. La France, mais quand il faut prendre la CAF, pas de problème, on prend les allocations familiales. La France, quand il faut prendre les RMI, sans problème, on ne crie plus la France, bien-aimé. La France, quand on donne le gouvernement fait des réductions des impôts, pas de problème. On s'était, il n'y a plus la France, bien-aimé. Sachons remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Il y en a, ah, le pasteur, il exagère. Mais quand il y a un problème à minuit, ça ne marche pas, téléphone. Pasteur, est-ce que tu peux prier? Non, non, non. Là, on devient doux. Est-ce que... Ah! L'ancien, il m'a fait ceci. Mais quand il y a un souci, bon, ancien, bon Dieu, la voix devient douce. Bien-aimé, sachons être honnêtes, remercier Dieu pour le bienfait. Reconnaissons la valeur des choses. Moi, je dis, même les gens avec qui on s'est séparés dans le service du Seigneur, je remercie Dieu parce que quand ils étaient là, ils ont travaillé pour l'Éternel. Ils ont travaillé, ils nous ont soutenus. Retenons que ce qui est bien, bien-aimé. Oublions ce qui ne va pas. Retenons ce qui est bien, Dieu va rendre ce qui ne va pas bien encore. Et même ce qui ne va pas, considérons que c'est bien, parce que Dieu a permis que nous subissions cela pour notre vie, pour notre changement. Car la Bible dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Conclusion, bien-aimés. Estime que ce que Dieu te donne, c'est d'un grand prix. Et ce pour lequel tu n'as pas réfléchi, les choses pour lesquelles tu n'as pas réfléchi. Alors, désormais, prends-les, confie-les à Dieu. Et considère désormais que c'est Dieu qui te les a donnés. Et tu verras, les choses vont changer. Nous irons vraiment de gloire en gloire. La règle va s'appliquer. Celui qui a aimé les petites choses, je vais lui donner les grandes. Celui qui a été fidèle dans les petites choses, je vais lui donner les grandes. Sois fidèle et le Seigneur se glorifiera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons te remercier. Toi qui es bon avec nous, tu nous rappelles toujours les choses les plus importantes, Seigneur. Tu veux qu'on prospère. C'est pourquoi tu nous parles. Et ce matin, ce jour encore, ô Éternel, nous venons prier, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon d'avoir négligé les dons que tu nous as confiés. Pardon d'avoir négligé les enfants que tu nous as confiés. Pardon d'avoir négligé les maris, les femmes que tu nous as donnés. Pardon d'avoir négligé la France. Pardon, Seigneur, d'avoir négligé, d'avoir critiqué injustement parfois les parents. Pardon d'avoir négligé les voisins d'immeubles. Pardon d'avoir négligé les responsables que tu nous as confiés pour notre vie spirituelle. Pardon d'avoir négligé les chrétiens qui nous entourent. Pardon d'avoir négligé la Bible. Nous voulons des miracles, mais nous négligeons la Bible, Seigneur. Nous voulons le succès, mais nous négligeons la parole. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons apprécier les choses à la lumière de ta parole, à la lumière de ta sagesse, Seigneur. Aide-nous à apprécier la valeur des choses. Aide-nous à comprendre que les choses de la terre passent et que c'est la vie qui est la chose la plus importante. C'est ta parole qui est plus importante. C'est toi, Seigneur, qui est plus important que n'importe quelle autre richesse. Aide-nous à voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Oh Seigneur, un château de sable peut paraître somptueux, mais ce n'est qu'un château de sable. Il est là pour un temps. Notre corps peut paraître beau, présentable, mais c'est comme un château de sable. Il est là pour un temps. Nos richesses peuvent le paraître, mais elles sont comme des châteaux de sable. Le vent peut les emporter, Seigneur. Nous voulons nous fonder sur des bases solides. Et la base solide, c'est toi, Jésus. La base solide, c'est ta parole. Ceux qui se confient en toi, en s'attachant à ta parole, prospèrent à tout jamais, Seigneur. Ô Éternel, merci de nous aider à faire les bons choix. Merci de nous aider à investir chez toi, Seigneur, notre temps, notre corps, nos biens, Seigneur, afin qu'il y ait une récolte en abondance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous ta sagesse, Seigneur. Ta sagesse. Que nous soyons plus sages que les enfants des ténèbres. Ô Éternel.